Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Salut, c'est Victoire Tuillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 000 lieues sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elles traversaient l'enfer, les violences que lui a infligées son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair, dans Le cœur sur la table.
C'est un rebondissement de taille dans le feuilleton Cesare Battisti. L'ancien activiste italien d'extrême gauche a finalement reconnu sa responsabilité dans 4 meurtres commis à la fin des années 70 en Italie. Il avait toujours nié son implication dans les meurtres pour lesquels il avait été condamné à perpétuité. Mais ce week-end, il semble être passé aux aveux devant la justice italienne.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ces dernières semaines, un nom un peu oublié, tombé dans les tréfonds de nos souvenirs du début des années 2000, a ressurgi dans l'actu, celui de Cesare Battisti. L'ex-activiste d'extrême gauche, auteur de Polar, réfugié un temps en France, et dont le passé trouble avait suscité de vifs débats il y a 15 ans. C'était en 2004, et il avait été arrêté à Paris à la demande des autorités de son pays, l'Italie, qui par ailleurs l'avait condamné en son absence pour assassinat et complicité d'assassinat. Écrivain, intellectuel français, parti politique de gauche, était alors vent debout contre ce qu'il considérait comme un acharnement contre un ancien militant innocent. Il a été libéré, placé sous contrôle judiciaire et s'est enfui direction le Brésil. L'affaire aurait pu en rester là, mais l'arrivée récente au pouvoir du président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui avait fait de l'expulsion de Battisti une promesse de campagne, a tout changé. L'Italie a fini par remettre la main sur l'ex-terroriste, seulement voilà, Battisti ne nie plus les charges qui pèsent contre lui. Pire, le procureur en charge du dossier a annoncé qu'il reconnaissait sa participation aux meurtres pour lesquels il avait été condamné. Embarras massif à gauche en France et avalanche de questions. Pourquoi et comment les intellectuels français se sont emparés de la défense de Battisti ? Qu'est-ce qui a conduit à ce qui finalement ressemble beaucoup à de l'aveuglement ? Quel regard les Italiens portent sur l'attitude française et sur cette affaire qui résonne drôlement chez eux, vu leur actualité politique ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B.
Au fond, l'affaire est italienne au départ. Mmh. Électoralement, ça les intéressait de ressortir sur fond du terrorisme actuel. C'est un amalgame historiquement aberrant, mais peu importe, ça marche. De ressortir leurs vieux terroristes d'il y a 30 ans, parce qu'ils sont un peu dans le merdier en Italie avec leur engagement en Irak.
Pour être clair, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, Berlusconi est allié avec l'ancien parti néo-fasciste de Fini. Il est allié avec la Ligue du Nord. Il a besoin, pour souder sa majorité, de s'attaquer aux anciens gauchistes.
Ça arrange de diaboliser les anciens terroristes pour rediaboliser tout ça.
Dites-moi, Fred Vargas, vous savez où il est, Battisti, aujourd'hui ?
Vous voulez qu'on m'emmène en taule à la sortie de l'émission ? Non, je ne sais pas où il est.
Voilà quelle était l'ambiance sur les plateaux de télé au temps où Ardisson régnait sur nos samedis soirs il y a maintenant 15 ans. Battisti, à l'époque, faisait figure de héros de la gauche. J'ai retracé rapidement son parcours en intro. Il manque à ce dernier une précision historique tout à fait française. Car si l'ancien activiste des prolétaires armés pour le communisme avait choisi la France, ça n'est pas pour rien. Dans les années 80, alors que l'Europe sort d'une décennie secouée par de très nombreux actes terroristes d'extrême gauche et d'extrême droite, celle des années de plomb, François Mitterrand, arrivant au pouvoir, décrète que désormais la France n'extradera pas les terroristes réfugiés chez elles qui ne participent plus à des activités politiques. Les repentis, comme on dit. C'est ce qu'on appelle la doctrine Mitterrand. Une doctrine qui a ses exceptions, les criminels de sang, ceux qui ont tué ou comptent encore se livrer à des actes violents que cet engagement informel ne protège pas. Battisti, pour en revenir à lui, après un passage en France au début des années 80, part en direction du Mexique. Il ne reviendra chez nous qu'en 91. Il est alors arrêté mais n'est pas extradé. C'est à ce point de l'histoire qu'intervient notre premier invité, le journaliste de Mediapart Karl Lasker, auteur d'un livre sur Battisti, La mémoire du plomb, à qui j'ai demandé pourquoi, en ce début des années 90, Battisti n'était pas renvoyé en Italie, alors même qu'au vu des charges qui pesaient contre lui, il ne rentrait pas dans le cadre de la doctrine Mitterrand.
Ben en fait, il y a ces deux processus. Hein. C'est-à-dire qu'il y a cette doctrine Mitterrand, c'est on est dans l'informel, on est voilà, ça n'empêche pas, la doctrine Mitterrand n'empêche pas des personnes d'être interpellées et la justice d'être saisie, en fait. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Il a été interpellé, la justice a examiné les jugements, et en les examinant, comme d'ailleurs c'était le cas dans le cas de certains nombres d'Italiens, les juges ont considéré que les jugements n'étaient pas conformes au droit français. Oui. C'est un peu technique, hein, donc en termes d'extradition, la justice se prononce sur le caractère technique et la conformité du droit. Oui. La question de l'association subversive n'était pas reconnue en droit français, donc il y avait la question aussi du cumul des peines qui n'était pas correcte. Enfin, il y a tout un raisonnement juridique qui a conduit à la décision des juges parisiens.
Et comment se fait-il que pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, avait 16-17 ans à l'époque où, en 2004, on a recommencé à parler beaucoup de César et Battisti, on avait la sensation qu'il était un peu martyr de cette époque-là, un peu l'innocent qu'on essayait d'associer, le simple militant qu'on essayait d'associer à des crimes qu'il n'avait pas commis. Comment ça se fait que cette image-là soit ressortie médiatiquement à cette époque-là ?
Bah, disons que ce qui est sûr, c'est que les réseaux de soutien, hein, qui étaient divers, encore une fois, le Polar, les Italiens, et puis après les différents partis politiques qui se sont impliqués, ont présenté le cas d'un essentiellement le cas de Battisti comme celui voilà d'un intellectuel en gros poursuivi réclamé par Berlusconi par vengeance, hein. Donc c'était évidemment pas la vraie histoire, hein. Battisti à la fois il a tenu plusieurs discours, en fait. Hein. Oui. Il a dit d'abord qu'il reconnaissait avoir été un militant impliqué, avoir été responsable de ses actions. Sans entrer dans le détail, il a écrit un roman dans lequel, quand même, il décrit ses actions. Et donc, il reconnaîtra, par ailleurs, que c'était une énorme erreur, puisque la dernière cartouche raconte les péripéties de son groupe et ses propres... et les assassinats commis par son groupe, et les braquages, etc. Donc, il fait lui-même son propre réquisitoire, en définit. Et quand il le fait, son livre est accueilli favorablement, d'ailleurs, comme un récit, un superbe récit de cette époque-là, parce que, évidemment, assez réel, assez bien raconté. Et parallèlement à cette publication, il va être obligé d'endosser aussi sa tenue, disons, d'ancien militant, d'ancien activiste, et ça va changer à mesure de la pression italienne où il va être tenté de dire qu'il n'était pas le premier responsable, et puis après il va être tenté de dire qu'il était innocent, ou une partie de son entourage va quand même derrière ces différentes revendications, à la fois doctrine Mitterrand, etc., va quand même laisser entendre qu'effectivement on a affaire à quelqu'un qui a injustement acclamé et qui est innocent. Il le dira qu'en partant réellement, en s'enfuyant, en prenant la fuite, une fois que la cour d'appel s'est prononcée en faveur de son extradition, il va dire mais je suis innocent. Donc là après il va dire réellement de manière récurrente qu'il est innocent. Mais en même temps on peut, il faut dire que voilà, c'est possible pour un mis en cause, même légal, même devant les tribunaux, de mentir, hein, le droit, enfin c'est une façon de s'en sortir. Donc il a c'est plus critiquable évidemment pour l'entourage, c'est-à-dire comment se positionne l'entourage en sachant que il n'est pas innocent.
Est-ce qu'il y a eu un aveuglement de cet entourage et plus généralement d'une partie du monde intellectuel français, du monde médiatique français et même du monde politique français? Est-ce qu'il y a eu un peu d'aveuglement sur le cas Battisti?
Je ne sais pas si on peut parler d'aveuglement, parce que il y a au fond, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit récemment. Battisti a dit dans sa récente déposition, il a dit je ne sais pas pourquoi les gens réellement me soutenaient. Certains me soutenaient parce qu'ils considéraient que bon, il n'était pas normal que j'étais condamné en mon absence, d'autres parce que j'étais innocent, et puis s'ils croyaient que j'étais innocent, ben voilà, c'est leur problème, en gros. Donc, chacun avait un peu son rôle, c'est-à-dire Battisti, lui, défendait sa peau, entre guillemets. Les Italiens défendaient leur cause collective, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y avait pas intérêt à ce que Battisti s'en aille. Au-delà, je dirais plutôt que la question qui se pose peut-être, c'est la question des médias, c'est-à-dire des journaux. À quel moment les journaux n'ont pas fait le travail, entre guillemets. C'est à quel moment ils ont été militants, ou eux aussi, et se sont abstenus d'écrire ce qu'il fallait écrire. C'est-à-dire que toutes les positions sont défendables, mais pas si on tourne le dos à la vérité. Donc là, c'est un petit peu ça qui s'est produit, pas toujours, mais c'est vrai que le fait que des grands journaux reprennent de manière un peu aveugle, on peut le dire, les propos de Battisti, parce que par exemple Battisti, l'une de ses défenses, c'était de dire mais comment on peut moi me soupçonner, on m'accuse d'avoir tué deux personnes le même jour à deux endroits différents, etc. C'est pas, voilà. Donc, en réalité, il était accusé d'avoir été le complice dans un cas et le commanditaire dans l'autre. Enfin bon, il a été condamné. Bon, c'était logique, mais les plusieurs journaux et des grands journaux ont recopié cet argument sans le contredire en fait. Donc les journaux sont un peu éloignés. Se sont clairement éloignés des faits à plusieurs reprises, au lieu de peut-être qu'il y avait des arguments politiques à faire. Il y avait des arguments politiques à faire valoir. La question de la contumace, la question de l'oubli, et puis la question de la justice en Italie. Enfin, c'est un débat après qui est multiple en fait. Pour ce qui est de Libération, par exemple, où j'étais, c'est vrai que Libération, c'était différent parce que Libération donc est un journal qui est issu de l'extrême gauche. Et donc, Libération a dès le début intégré, enfin, dès le début à la fin des années 70, intégré des réfugiés. Donc, l'histoire faisait corps au journal, en quelque sorte. Donc, il était logique. Et d'ailleurs, de manière assez contradictoire et assez fine, un peu au début, parce qu'il y a par exemple eu des interviews de repentis, il y a eu des interviews qui allaient un peu ça allait un peu dans tous les sens. C'était un traitement. Il y avait une défense des réfugiés, il y avait la même, le même fondement à dire. En refusant des extraditions politiques, etc. La justice n'est pas fiable, entre guillemets. La justice, l'État italien est devenu autoritaire, etc. Et cette logique, qui était au fond quand même une logique militante, s'est installée en fait dans le raisonnement du journal par rapport à cette question. On sait pas, donc, et là, on n'était plus dans une logique journalistique. Les positions sont défendables, mais pas si on tourne le dos à la vérité.
La perte de vue des faits au profit de l'idéologie, quel que soit le bout par lequel on prend cette affaire, ce qu'elle était à l'époque ou ce qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qui semble dominer, notamment en Italie, où le pouvoir en place a très largement mis en scène l'arrivée de Battisti. L'Italie, c'est également là que vit et travaille notre second invité, Éric Joseph, lui aussi journaliste, correspondant de Libération à Rome. Il a évidemment suivi le dossier Battisti et notamment ses récents rebondissements. Je lui ai donc demandé comment ces derniers étaient perçus par la société italienne.
De manière générale, pour résumer, il y a eu une satisfaction de l'opinion publique qui attendait cette arrestation depuis des années, et une instrumentalisation politique qui a dépassé sans doute certaines bornes, puisque notamment Salvini s'est présenté à l'aéroport avec un uniforme de la police. Et son collègue de la justice, quelques heures plus tard, a fait une vidéo. Il était, lui, recouvert, habillé avec l'uniforme de la police pénitentiaire. Et donc, il y a eu une utilisation politique de la part du gouvernement.
Si on revient quelques années en arrière, une dizaine, une quinzaine d'années en arrière, comment était perçue à l'époque en Italie l'attitude des intellectuels français vis-à-vis de Battisti et le grand mouvement de défense qu'on avait vu notamment dans les médias français de Battisti au nom de son innocence présumée justement ?
Mais du côté italien, il y a toujours une incompréhension totale de la part de l'attitude de la du monde intellectuel, médiatique, français. Il y a eu véritablement une rupture totale entre les deux opinions publiques. C'est-à-dire qu'on ne comprenait vraiment pas du côté italien comment on pouvait justifier la non-extradition de Cesare Battisti et ses soutiens. Alors, là où effectivement, par contre, c'est matière à réflexion, c'est que les Italiens n'ont pas du tout non plus compris ce qu'était la doctrine Mitterrand. Il y avait véritablement une incompréhension sur cette politique menée par Mitterrand à partir du début des années 80, formulée véritablement en 85, et qui était l'accueil des activistes qui avaient rompu avec la machine infernale du terrorisme. Et là-dessus, c'est vrai que du côté italien, là, il y avait un refus total également d'entendre le sens politique de la mesure prise par l'ancien président français. Et c'est effectivement un élément qui est à noter. C'est-à-dire que si on peut comprendre d'une certaine manière l'indignation, l'incompréhension de la part des Italiens par rapport à cette mobilisation autour de Battisti qui se présentait comme totalement innocent, de l'autre côté, effectivement, l'incapacité de la société italienne, en quelque sorte, entendre, comprendre, interpréter, analyser ce qui s'était passé dans les années 70 et 80, et dont la doctrine Mitterrand est en quelque sorte une réponse parcellaire et partielle. Mais ça aurait pu, autour d'une réflexion sur la doctrine Mitterrand, permettre aussi à la société italienne de revenir pour tenter de mieux comprendre ce qu'avaient été les années de plomb et ce qui n'a pas été fait.
Il n'y a pas eu de travail mémoriel dans le sens où il n'y a pas eu de travail de réflexion, c'est ça que, si je comprends bien ce que vous dites, Eric, sur notamment il n'y a pas eu de processus, ne serait-ce que l'esquisse d'un processus d'amnistie, comme on a pu le voir dans certains pays qui ont connu des troubles un peu comparables, où on a fini par mettre les choses de côté en disant voilà, ce qui s'est passé est passé, maintenant essayons d'avancer vers l'avenir. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de processus de ce type-là en Italie.
Mais c'est un peu particulier parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que avec les anciens activistes directement, c'est un peu ce qui se passe. Oui. C'est-à-dire que s'ils parlent, s'ils collaborent, ou même s'ils se dissocient de la lutte armée, ils obtiennent des aménagements de peine, des réductions de peine, et donc pratiquement tous les terroristes, tous les anciens terroristes, même ceux qui étaient du groupe qui avait enlevé Aldo Moro, qui l'avait tué, etc., pratiquement tous sont déjà sortis de prison ou en régime de semi-liberté. Pour les plus irréductibles, malgré tout, ils bénéficient de temps en temps de permis de sortie. Donc, d'une certaine manière, il y a eu ce moyen, et ça a été notamment un moyen judiciaire, de fermer la période des années de plomb en proposant aux anciens terroristes de se dissocier ou de se repentir et en échange d'avoir des remises de peine. Et donc, d'une certaine manière, il y a ce travail. Par contre, ce qui n'a pas été fait, c'est véritablement une analyse en quelque sorte plus qu'historique, parce qu'il y a des historiens aussi qui ont travaillé oui. dessus, mais une analyse vraiment politique pour comprendre ce qui s'était passé, une sorte de d'introspection collective. Ce qui s'est passé en Italie, c'est qu'à partir du moment où on résout la question du point de vue policier, militaire et judiciaire, du point de vue politique, on tourne la page. Et on ne veut plus véritablement voir ce qui s'était passé, les dynamiques qui avaient provoqué le fait que des dizaines de milliers de jeunes italiens s'approchent ou aient une activité directe dans le terrorisme. À partir du début des années 80, on tourne la page et on veut une autre Italie, on veut une Italie qui consomme, une Italie qui reparte vers la production, vers la croissance, vers le divertissement. Et l'incarnation de tout ça, c'est Silvio Berlusconi et ses télévisions.
J'imagine que l'actuel gouvernement et la tendance politique, en tout cas une partie des tendances politiques qui y sont représentées, n'aident pas forcément à faire ce processus de réflexion politique.
Ah ben c'est sûr que l'actuel gouvernement, c'est pas sa volonté, c'est pas son intérêt de revenir sur ces années-là, d'essayer de comprendre la volonté de l'actuel gouvernement, c'est la stigmatisation des anciens activistes en laissant entendre que ces anciens activistes étaient liés avec la gauche modérée, que la gauche modérée était en quelque sorte complice et que donc il fallait stigmatiser l'ensemble de la gauche, alors que la gauche a été quand même l'une des principales victimes aussi du terrorisme. On rappelle notamment l'assassinat d'hommes politiques de gauche, mais aussi de syndicalistes, notamment Guido Rossa, qui avait été assassiné par Grigadou, justement parce qu'il s'opposait à l'infiltration de l'extrême gauche militarisée dans les usines, et il a été éliminé pour cela. Donc il y a une véritable volonté de la part de l'actuel gouvernement d'instrumentaliser totalement le cas Battisti et les autres cas éventuels, parce que évidemment après Battisti, Matteo Salvini a annoncé son intention d'obtenir d'autres têtes de militants, d'anciens activistes d'extrême gauche réfugiés en France.
Depuis, un nouveau champ polémique s'est ouvert en France. Faut-il ou pas publier Battisti ? Son dernier roman est désormais entre les mains des éditions du Seuil, qui ont décidé d'attendre un peu avant d'envoyer en rayon le livre, qu'on nous annonce certes comme brillant, mais qui, pour le coup, au goût des éditeurs, en traite un peu trop vivement en collision avec une actualité explosive. Merci à Karl Lasqueux et Eric Joseph pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Si vous nous suivez via Apple Podcast avant de vaquer au reste de vos occupations, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles, elles seront fortement appréciées. Abonnez-vous par ailleurs sur votre podcast préféré si vous ne voulez manquer aucune de nos aventures, et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans Le Naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau, au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.